Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capucarmi.
Théophile Mompalo, bonjour.
Bonjour, monsieur Kachama. C'est Théophile Mompalo.
Mompalo, bien.
Mompalo, ok, merci.
Voilà, on parle aujourd'hui de, d'un thème intéressant, les gens qui travaillent sous pression. Vous êtes journaliste, traiteur ou agent comptable, vous avez l'habitude de travailler sous pression. Pas le moindre temps de répit, aussitôt une tâche achevée, vous êtes de nouveau sollicité avec empressement pour réaliser une autre tâche. Parfois, votre patron ou chef ou votre superviseur vous impose un autre travail alors que vous n'avez pas encore fini le premier. Alors, Théophile Mompalo, devant une telle sollicitation, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir?
Ok, travail sous pression. C'est cela, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Ok. Avant de répondre à votre question, je crois que nous devons essayer un peu de le cerner suivant certains aspects.
Oui.
Le premier aspect, nous allons essayer un peu de voir ce que ça signifie, un travail sous pression. Donc, on va essayer de tenter d'en donner la définition dans la mesure du possible.
Oui.
Ensuite, nous allons essayer d'évoquer les causes. Les conséquences et enfin, nous allons terminer par quelques conseils pour lutter contre ce genre de travail.
Alors, qu'est-ce que cela veut dire, travailler sous pression?
Ah oui, c'est exact. Bon, donc, travailler sous pression, c'est réaliser une activité, déployer une activité dans un climat de contrainte.
Oui.
Voilà un peu pour, de façon tout à fait ramassée, la définition du travail sous pression. Donc, je voudrais dire ceci.
Oui.
Que lorsque on donne un travail à quelqu'un dans une situation contraignante de coercition, on lui impose un peu ce qu'il doit faire.
Oui.
Voilà, de façon ramassée, la définition vague, si vous voulez, du travail sous pression.
Alors, quelqu'un qui a le patron te donne une tâche à accomplir, la tâche n'est pas encore achevée, il y a une autre tâche qui arrive, parfois il y a l'énervement qui arrive. Comment gérer oui. tout cela?
C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, après cette définition, je vais pouvoir évoquer certaines causes, conséquences, et pour terminer sur la lutte contre ce genre de travail.
Oui.
Et à travers. Ce que je vais vous donner comme élément, vous pourrez justement dégager une réponse à votre question, à votre questionnement. Bon, donc deuxième point, après ces définitions, je voudrais évoquer quelques causes.
Oui.
Et parmi ces causes, figure justement ce que vous venez d'avancer. Mais je voudrais d'abord vous donner les miennes, mes causes à moi.
Oui.
Donc, le fait, dans quelle mesure, dans quelles conditions de contrainte le patron arrive à imposer certaines mesures, c'est demander un travail à quelqu'un.
Oui.
Bon. Lorsque vous contactez votre invité, par exemple, dans des conditions qui ne sont pas normales, en retard, ou 5 minutes avant l'émission, Mais c'est une contrainte, c'est une pression que vous exercez sur lui. Si je me suis de donner cet exemple, parce que c'est dans le cadre de votre métier. N'est-ce pas, frère Kachama, je ne sais pas si ça vous dérange.
Allez-y, okay. Vous êtes en train d'éliminer les causes, allez-y.
Bon, ok, deuxième exemple, il y en a les gens, il y en a beaucoup.
Oui.
Lorsque vous demandez à quelqu'un de vous rédiger un rapport, à la suite d'une réunion que vous venez d'avoir avec lui,
oui.
Et au moment où il se met au travail, vous lui demandez un autre travail. Vous lui demandez, par exemple, de vous rédiger le compte-rendu d'une autre rencontre qui avait eu lieu peut-être quelques temps avant.
Oui.
Et puis, au même moment, vous lui demandez de faire une course dans le cadre du service, aller déposer le courrier auprès de quelqu'un d'autre.
Oui.
Vous comprenez? Ça ne va pas. Vous donnez des ordres, vous donnez des directives, plusieurs à la fois, en même temps qui n'est pas requis, naturellement, vous exercez une pression, une contrainte sur votre interlocuteur.
Oui.
Et à quel résultat il pourra arriver et vous pourrez atteindre. Vous comprenez, c'est vraiment des conditions, des contraintes qui ne sont pas tout à fait indiquées dans le chef de travail.
Alors, la personne qui subit la pression, comment peut-elle réagir?
Oui, comment il va pouvoir réagir? D'abord, je voulais parler des conséquences sur cette réaction. Il va réagir, justement, là-dessus, je vais faire allusion à des conséquences.
Oui.
Il y a des conséquences psychologiques, il y a des conséquences, disons, physiques, etc. Et s'il est, par exemple, s'il y a un cadre qui donne des instructions à son collaborateur, à son inférieur, le cadre, c'est celui qui détient une autorité, n'est-ce pas, sur quelqu'un.
Oui.
Eh bien, il aura la peur que ce collaborateur va pouvoir, n'est-ce pas, dont il va faire montre. Et par peur, il va travailler. Peut-être qu'il sera gêné de dire non, il va accepter. Mais quelle est la conséquence du travail qu'il va effectuer? Mais le rendement sera moindre. N'est-ce pas?
Oui.
Le rendement sera moindre. Le résultat tout à fait sera insuffisant par rapport à ce qui lui a été demandé. Bon, il y a encore d'autres conséquences sur le plan psychologique. Il sera nerveux.
Oui.
Et le collaborateur sera très nerveux et il ne pourra pas travailler à l'aise. Je parle de point de vue psychologique. Et sur le plan, par exemple, physique, mais ce collaborateur risque, le pauvre risque de faire de la diarrhée.
Oui, ou avoir des maux de tête.
Il risque de faire de la diarrhée. Il risque d'être. Il a des prédispositions à tousser. Il va imposer une toux pour la circonstance.
Oui.
Il pourra peut-être avoir des maux de tête parce qu'il sera surmené. Il y a le surménage, j'ajoute ça sur le plan physique. Il y a l'impatience. Bref, il va pouvoir faire preuve de stress. Il aura des stress. Il aura des perturbations sur le plan biologique, sur le plan psychique, sur le plan mental, etc. Suite à cette agression qu'il a subie de la part de son interlocuteur,
oui.
Qui se trouve être son patron.
Alors,
voilà un peu les conséquences. Je crois avoir répondu à votre seconde question.
Oui, voilà. Maintenant, on est dans cette situation-là. On est sous pression. Il y a beaucoup de tâches à accomplir. Et on ne sait pas dire non à son patron. Maintenant, d'après vous, quelle est la meilleure façon de se tirer d'affaire? Il faut dire au patron, faire comprendre.
C'est une bonne question.
Oui.
Cette question est très importante. D'abord, je voulais dire ceci, avant de répondre à cette dernière question, que les responsabilités dans le cas des stress sont tout à fait partagées. Il y a des responsabilités qui incombent à, disons, collaborateurs, et il y en a qui incombent également à son chef. Alors, du point de vue du collaborateur, un collaborateur qui embrasse beaucoup de choses à la fois, qui fait beaucoup de choses. Il est, prenons votre exemple, ça passe, je vous allez mieux comprendre. Quelqu'un qui est conseiller chargé de communication à la radio Okapi. Au même moment, il est mon collègue à l'université, professeur.
Oui.
Il est en même temps consultant à la Monique. Il est en même temps consultant à l'UNESCO ou à l'UNICEF.
Il est tout terrain. Tout terrain.
Il est tout terrain.
Tout terrain, oui.
Donc, bref, il s'adonne à plusieurs extramoros à la fois.
Oui.
Il est conseiller à la présidence. Il est conseiller au ministère, je ne sais pas, des affaires étrangères, et j'en passe des meilleurs. Mais à quel résultat arrivera-t-il? Et ce sera difficile.
Oui.
Ça sera difficile. Donc, il faudra que ce monsieur puisse diminuer le nombre d'activités à exercer.
Non, peut-être, M. Théophile, il se dit, oui. Avec ses extramuros, ça lui rapporte un peu plus d'argent. À la fin du mois, il se retrouve avec une bonne enveloppe.
Il se tue. Il se tue parce que, comme vous l'avez dit, il va développer des stress. Il y aura des perturbations sur le plan physique de sa santé. Il va développer la tension artérielle. Les gens que vous trouvez là dans les services spécialisés, les hôpitaux tels que Ngaliema, etc., tout ça, vous verrez que ceux qui sont des patients du côté des victimes de la tension artérielle, qui développent la tension, qui sont plus ou moins paralysés d'un côté, partiellement, soit droit, soit gauche. Allez-y faire un sondage, vous verrez la plupart ce sont ce genre de personnes-là qui travaillent sous pression, qui n'ont pas de repos,
voilà.
Qui sont dépassés par tout un tas de tâches qui leur sont demandées.
Oui, alors Théophile Montpalo, nous avons...
À ce moment-là, oui. L'argent-là que vous êtes en train de chercher, ça va profiter à qui?
Ben voilà.
Répondez à l'hôpital ou bien à vous-même.
Christian, vos questions nous appellent de Mbandaka.
Je suis disposé, oui.
Oui, il y a peut-être d'autres auditeurs qui vont appeler tout à l'heure au 081-890-6394 pour poser des questions.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Vous travaillez sous pression, comment vous en sortir? Christian Bokessé de Mbandaka, bonjour. Christian, bonjour. Christian n'est plus en ligne, apparemment, Tati. On va peut-être le retrouver plus tard. Alors, Monsieur Théophile Montpalo. Alors, parlons de quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Le patron, le chef, lui impose beaucoup de tâches à faire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre à dire non au patron ou il doit tout accepter?
Oh, ben ça, c'est bien. Merci beaucoup, M. Kachama. Est-ce qu'il doit dire non au patron, il doit accepter, etc. Je vous dis, le patron, il va accepter, le résultat sera médiocre, n'est-ce pas?
Oui.
Alors, ce qu'il doit faire, c'est amener son patron à donner des ordres quand il faut, à organiser des réunions. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure que les responsabilités étaient partagées, tant au niveau du collaborateur, au niveau de son patron. Donc, il faut que du côté du patron, du cadre, qu'il organise des réunions pour préparer le collaborateur à recevoir des ordres, à en comprendre la raison, de manière à pouvoir garder une certaine liberté. Donc, que son collaborateur puisse avoir une certaine liberté, même limitée, de manière à exercer un peu d'initiative individuelle. N'est-ce pas? Il faudra également, il y a plusieurs, naturellement, raisons, il faudra que le chef arrive à programmer à l'avance les ordres à donner en décidant qui doit faire quoi, où, pourquoi, quand, éventuellement comment.
Oui.
Trop d'ordre, pas trop de directives.
Il faut qu'il y ait une bonne répartition des tâches, c'est ça.
Absolument. Ne pas donner en même temps plusieurs ordres à la même personne. C'est de peur que cela ne puisse entraîner une confusion dans l'esprit de son collaborateur.
Mais si on est devant un collaborateur paresseux.
Un collaborateur paresseux. Mais c'est un collaborateur super motivé. Il a peut-être suffisamment de... Il touche ce qu'il faut. Il a un SMIC qui correspond à, disons, pouvoir... Il a un pouvoir qui répond à son pouvoir d'achat.
Oui.
Mais il ne peut pas... Vous savez, il ne va pas se montrer paresseux pour autant. Au contraire, il va tout embrasser. C'est très jeune. Je connais une personne comme ça.
Oui.
Qui accepte tout, je suis point focal, je connais ceci, je connais ça. En fin de compte, si jamais il n'en fait rapport lorsque on lui demande de le faire, n'est-ce pas? Vous comprenez, il accepte pour en faut bénéficier de certaines faveurs, mais en fin de compte, il ne fait rien. Donc, c'est ça. Il faudra que le chef puisse tenir compte de cet aspect qu'on a fixé pour exécution de ses ordres, des limites de temps raisonnables.
Mmh.
Absolument. Demandez au gars de remettre le rapport suivant des limites à ne pas dépasser. Et une fois l'ordre donné, déléguer l'autorité nécessaire pour l'exécuter et ne plus intervenir directement. N'est-ce pas?
Oui.
Donc, il faudra que le chef puisse donner des instructions, des ordres simples, comme je disais tout à l'heure, et surtout compréhensibles. Et le faire de manière courtoise par rapport à son collaborateur.
Mais peut-être qu'il y a certains collaborateurs qui ont tellement peur du chef. Lorsqu'ils donnent des ordres, ils n'ont rien compris, ils acceptent oui, chef, alors qu'en réalité, il n'a pas bien saisi ce que le chef veut dire exactement.
Mais justement, le chef va remarquer cela au niveau du résultat. Et pour éviter cet aspect du problème, il faudra qu'il puisse organiser le dialogue avec ses collaborateurs. À travers des réunions, à travers des rencontres individuelles avec son collaborateur ou ses collaborateurs, pour spécifier, pour donner le plus de renseignements possible concernant le travail qui est demandé. C'est très important.
Oui.
Il faut donc se méfier des reproches aussi violents. Pendant que vous, peut-être vous demandez le rapport et que la tâche n'a pas été accomplie comme il se devait. Vous faites cela des reproches de façon discourtoise à l'égard de votre collaborateur. Eh bien, cela, vous comprenez, ça va lui provoquer des stress.
Oui. Et si on est devant un chef qui intimide ses collaborateurs?
Ah oui, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le chef, je vous ai dit que dans le cas d'espèce, les responsabilités incombent non seulement aux collaborateurs, mais également au chef. Le chef à qui nous avons affaire, je suppose que c'est un chef intellectuel comme vous et moi, qui comprend les enjeux, qui est un véritable manager. Le chef doit être un manager, non seulement manager, il doit être un bon leader de ses collaborateurs. Mmh. Il n'est pas là seulement pour intimider, il est là pour écouter, faire preuve de l'écoute. Donc il y a des chefs qui n'écoutent pas leurs collaborateurs. Ils croient pouvoir connaître le tout. Donc, les collaborateurs n'ont rien à dire, de telle sorte que parfois, il y en a, justement, le fait de s'imposer vis-à-vis de leurs collaborateurs, et les conséquences sont là. Ils s'imposent et ils exercent une certaine pression sur ceci.
Alors, mettons-nous dans une situation où on se retrouve envahi par, il y a plusieurs dossiers à traiter. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment commencer à éliminer, comment éliminer ces dossiers et puis tout en évitant le stress?
Ok. Dans le cas d'espèce, c'est à travers les rencontres du service, à travers les réunions, qu'il sied au chef et à ses collaborateurs de planifier, de programmer des choses, pour savoir, écoutez, à court délai, nous avons, à court terme, je vous l'ai dit, les dossiers à traiter sont les suivants. À moyen terme, ce sont tels dossiers, à long terme, ainsi de suite. Vous comprenez, quand vous planifiez les choses, vous organisez en termes de planification, parce qu'en fait, diriger, c'est planifier aussi, c'est organiser. Alors, à ce moment-là, vous allez éviter ce genre de pression, n'est-ce pas, inutile sur vos collaborateurs et partant de leur causer préjudice.
Et les collaborateurs qui reçoivent les dossiers, est-ce qu'il doit avoir également un document à côté où il peut noter les priorités et puis
Absolument. Mais vous savez, Kachama, pendant ce genre de rencontres,
oui.
Mais comment vous pouvez vous retrouver pendant la réunion, mais vite? ce que doit avoir un bloc-notes, que ce soit le chef ou ses collaborateurs, n'est-ce pas, avec un stylo qui vous permet de prendre des éléments importants. D'ailleurs, c'est pas tout, vous n'êtes pas le, à moins que vous soyez le secrétaire rapporteur, mais si vous êtes un collaborateur, membre de la réunion, simple membre, tout ça, mais vous devez avoir un bloc-notes dans lequel vous écrivez, vous relevez les priorités. Vous priorisez vos activités, vous relevez donc ce qu'il faut faire à court terme, ce que vous devez déployer à moyen terme et enfin à long terme, et vous demandez si cela correspond aux avis et aux exigences de la hiérarchie. En ce moment-là, je crois que vous n'avez pas à vous plaindre au sur mesure.
Voilà. Et vous avez parlé tout à l'heure de ceux qui travaillent, qui ont des extras moraux. Voilà.
La vie est difficile. Je sais que c'est pas votre cas. Okay.
Non. C'est pas votre cas non plus. C'est tout. Et d'après les informations reçues, c'est beaucoup plus les enseignants, les médecins.
Oui. Je m'y attendais. Vous savez, je suis enseignant, bien sûr. Bon. Même les journalistes, ne vous en faites pas.
Hein. Ah bon.
Peut-être vous cachez un peu. Bon, on ne va pas parler des choses individuelles ici. Bon, en général, les médecins et les enseignants sont autorisés, y compris les journalistes, par la loi. N'est-ce pas?
Avant de prendre
une telle situation, vous devez avoir un bloc-notes, vous devez avoir une programmation personnelle.
Oui.
Hein, vous savez qu'est-ce que vous devez faire et où, à quel moment, et ainsi de suite, sans porter préjudice aux autres services. C'est un problème d'organisation, je crois que ça peut aller, parce que le métier que vous exercez et moi, c'est un métier libéral, dit-on.
Oui.
Hein? Donc, d'abord, nous n'avons, il n'y a pas suffisamment de professeurs dans ce pays, il n'y en a pas beaucoup, les médecins non plus, les journalistes encore moins, tout ça. Alors, si on doit essayer un peu de leur demander de s'adonner à une seule activité, vous comprenez que les autres services risquent d'en pâtir, d'en souffrir. C'est comme ça qu'à travers le monde, d'ailleurs, on a demandé que ce genre de métier puisse se déployer avec les autres, mais moyennant organisation, moyennant planification, et ainsi de suite. Voilà un peu pour éviter des stress dans la vie. Mais évidemment, il y en a qui embrassent de trop. Il y en a qui embrassent de trop. Il y a des professeurs qui sont professeurs au niveau supérieur, ils sont professeurs au secondaire, ils sont... À l'intérieur, ça peut se comprendre. Mais à Kinshasa, où il y a beaucoup de compétences, je ne pense pas qu'il faille pouvoir trop embrasser, parce qu'il trop embrasse mal et très.
Oui. Et comment vous arrivez, par exemple, à gérer votre temps? Il y a des tumultes parfois à gauche, à droite, il faut aller donner un coup de main ici et là. Comment vous arrivez à planifier vos activités?
Oui, c'est vrai. Bon, si vous voulez apprendre plus, je prends mon cas par exemple. Je suis prof à l'UPM, où je suis chef des travaux. Imaginez-vous, à un moment donné, j'étais chef de division à l'EPSP. Et j'étais en même temps professeur dans un établissement d'enseignement privé où j'étais même directeur général. Où il y avait même une école d'application qui formait des infirmières A2.
Oui.
Et j'en étais le préfet.
Oui.
Je vous assure, quand j'arrivais à la maison, ma maman se plaignait que je ne m'occupais pas tellement de la maison.
Oui.
Les enfants. Vous comprenez? Bon, j'étais obligé de mettre fin à d'autres activités.
Mmh.
Et puis, nous avançons en âge. Il faut tenir compte de cet aspect du problème également. Hein? Votre santé. Est-ce que vous avez le temps d'aller faire votre check-up, etc.? Vous risquez de tomber comme ça, vous n'avez pas de voiture, vous tombez en route ou bien à l'arrêt du bus.
Oui.
Et ça fait ça. Ça
c'est pas un
hein? Donc, essayez de diminuer, essayez un peu de planifier, de voir un peu comment vous pouvez vous... imaginez-vous, j'étais même consultant à l'UNICEF. C'est ça qui a fait que je puisse avoir un chemin aujourd'hui.
Oui.
Parce que dès que j'avais constaté que de ce côté-là, ça payait mieux, j'ai dû supprimer des histoires de l'État. Telle qu'au ministère où j'étais chef de division, je n'y vais plus, je n'y allais plus. Heureusement, il y a eu un contrôle et je n'ai pas été me présenter. On m'a considéré comme un déserteur. Je suis parti. des personnes que je connaissais à l'université. Maintenant, je suis à l'université et oui. je suis visiteur dans un autre établissement d'enseignement supérieur.
Oui.
Et ça marche à la maison.
Oui.
Madame, on s'est arrangé pour qu'elle puisse passer sa formation au niveau de licence. Dieu merci, elle a été nommée par ordonnance directeur, quelque part.
Oui.
Où, maintenant, on est à l'aise, je suis à l'aise.
Donc, vous ne travaillez plus sous pression.
Voilà, je ne travaille plus sous pression comme ce fut le cas il y a quelques années.
Oui.
Je suis à l'aise, je ne crains pas de faire, je ne suis pas locataire.
C'est bien. Merci, Théophile Mumpualo, psychoéducateur, chercheur et chef de travaux à l'Université pédagogique nationale. Oui. Merci et à la prochaine.
À la prochaine, Kachama. À vous.